السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاعه الإسلام. Nous allons, inshallah, nous attarder un petit peu sur un hadith très connu, un hadith de base que chaque musulman a déjà entendu ou a déjà lu, un hadith dans lequel le hadith d'Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu a été rendu visite une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé. Et sur quoi il était allongé? Il était allongé sur une nappe tressée, sans qu'il y ait véritablement d'oreiller ou n'importe quel moyen de confort ou n'importe quelle chose qui pourrait apporter le minimum de confort à un être humain. On ne parle pas de richesse là, on parle de confort de base. Et lorsque Omar ibn Khattab est entré dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis. Et lorsqu'il s'est mis assis, Omar ibn Khattab a vu les traces des nattes sur le dos mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Omar ibn Khattab s'est mis à pleurer. Il dit que fara'aytu athara al-hasir fi jambihi. J'ai vu les traces des nattes sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fabakaytu faqala ma yubki. Fasam dit Omar, pourquoi est-ce que tu pleures? Omar dit faqultu ya Rasulallah, inna kithra wa qaisr fi ma huma fi. Dieu prophète d'Allah, les rois de Perse, les rois, les Romains, César, etc., ils ont tout ce qu'ils veulent de ce monde. Ils ont telle position dans ce dunya. Wa anta rasulullah. Et toi, tu es le prophète d'Allah. Toi, tu es l'élu d'Allah Azza wa Jal. Il veut dire, regarde dans quelle situation tu es. Regarde comment ces kuffar billah. Ces gens qui n'ont jamais fait un sijda lillah. Ces gens qui n'ont jamais remercié Allah pour quoi que ce soit. Ces gens qui ne reconnaissent même pas l'existence d'Allah Azza wa Jal. Ils ont des palais, ils ont des châteaux, ils ont des richesses. Ils ont l'honneur, ils ont la reconnaissance. Ils ont la suprématie sur les autres civilisations. Et toi, prophète d'Allah, la créature la plus aimée par Allah Azza wa Jal, regarde dans quel état tu es au prophète d'Allah. C'était de la tristesse de la part de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ajib. Il dit, ya Omar, ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa la al-akhirah. Ya Omar, tu préfères pas qu'Allah accorde à ces gens le dunya, qu'Allah laisse à ces gens les bienfaits de ce monde, mais qu'Allah nous garde pour nous les bienfaits de l'au-delà. Je suis sûr, Omar n'a pas répondu. Omar a compris que le prophète alayhi salatu wassalam voyait beaucoup plus loin que n'importe quel créateur. Je Omar ibn al-Khattab, eux, ils ont l'honneur, ils ont la suprématie, ils ont la force, ils ont la richesse, ils ont l'opulence, ils ont tout ce qu'ils désirent et plus que ce qu'un être humain peut désirer. Mais sache, oh Omar, que si Allah leur a accordé autant, c'est parce que c'est tout ce qu'ils méritent dans ce monde. Mais le jour de Qiyamah, ils n'auront rien. Maintenant, qu'est-ce qu'un homme choisit? Qu'est-ce que le mu'min choisit? Est-ce que le mu'min veut avoir tout de ce monde et rien dans le-delà comme ces kuffar billah? Ou alors le musulman préfère vivre dans la simplicité, avoir peu, même si on ne dort pas le ventre plein, même si on n'a pas l'honneur, même si on n'a pas la reconnaissance des gens, mais on a le contentement d'Allah, mais on a la satisfaction d'Allah, à tel point que lorsqu'Allah accueille mon âme le jour de Qiyamah, Allah m'accueille en envoyant les anges dire, transmettez mes salams à mon serviteur. Et au moment de mourir, les anges viennent dire qu'Allah, Allahu yuqri'uka salam. Je t'annonce qu'Allah te transmet ses salams. Et cet homme qui a peut-être été pauvre de ce monde, il reçoit les salams de son Rabb avant qu'il quitte ce dunya. Et il sait qu'il retourne auprès d'un Rabb, d'un Seigneur qui est satisfait de lui. Est-ce que ça, c'est pas la plus grande richesse? Est-ce que ça, c'est pas l'objectif de la vie de chaque musulman? Alors, ya Omar, et n'importe quel musulman de toutes les époques, ne considérez pas les bienfaits de ce monde comme un signe de reconnaissance de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est pas parce qu'Allah a donné à des gens, c'est pas parce qu'Allah a élevé des gens, c'est pas parce qu'Allah a honoré des gens dans ce monde en leur accordant gloire, beauté, amour, honneur, qu'Allah aime ces gens. Le prophète alayhi salatu wa salam lui écrit un hadith que ad-dunya, non, law kanat ad-dunya, law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda. Si ce monde et toutes les richesses qu'il y avait de ce monde pour Allah valaient ne serait-ce que l'équivalent de l'aile d'un moustique ou d'une mouche, ma saqa kafiran minha shurbatama. Allah azza wa jalla, s'il considérait que ce monde avait une valeur, ben, si Allah aimait cette chose, ce dunya, Allah ne l'aurait pas donné à un kafir billah. Allah n'aurait pas donné ce dunya à quelqu'un qui ne l'adore pas. Si Allah leur donne l'honneur, le dunya, les richesses et biens de ce monde, c'est parce que ça ne vaut rien, mais rien du tout. Et c'est pour ce rien du tout, mes chers frères, que nous vendons notre âme. C'est pour ce rien du tout que nous abandonnons notre salat. C'est pour ce rien du tout, ba'ouda, l'aile d'une moustique, qu'on va rompre les relations avec notre père, avec notre mère, avec nos frères et sœurs, s'il y a eu un problème de partage de dunya. On ne parle pas de partage de tous les biens de ce monde, partage d'un mètre carré de terrain, d'un bâtiment, d'une voiture, de quelques milliers d'euros. C'est rien de chez de rien. Et pour ça, on va compromettre notre akhira. Vous savez, ce récit, il est tellement simple, mais tellement riche d'enseignements. Ça fait partie des jawami' al-kalim, des paroles remplies de sagesse de le prophète alayhi salatu wa salam. À travers une situation de la vie, il prononce une phrase qui résume le dunya, qui résume la relation en ce monde et le-delà. Ne soyez pas admiratifs devant ceux qui n'adorent pas Allah parce qu'ils sont élevés. Ne soyons pas admiratifs devant ceux qui n'adorent pas Allah parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils dirigent les autres pays, parce que les pays tremblent devant eux, parce que c'est eux qui font, entre guillemets, la pluie et le beau temps. Là, Allah, même s'ils le font, même s'ils ont tout ça, mais tout ça pour Allah, ça ne vaut strictement rien. Et Allah n'aurait pas accordé ces choses-là à quelqu'un si cela avait une valeur pour Allah Azza wa Jal. Vous avez ce hadith qu'on apprend aux enfants à la madrasa. Ad-dunya sijnu lil mu'mini wa jannatu lil kafiri. Tous les enfants à la madrasa connaissent ce hadith. Ce bas monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kafir, celui qui ne croit pas en Allah, Allah, il sait qu'il n'y a peut-être pas à la guider pour lui jusqu'à ce qu'il meure. Mais Allah va faire en sorte que cette personne vive bien. Et qu'elle obtienne des bienfaits, mais maintenant. Et quand il quitte ce dunya, c'est l'enfer qui commence. Quand est-ce que le jahannam commence pour le kafir? C'est quand Malik al-Maut vient et reprend son âme. Là, c'est le jahannam qui commence. Et un jahannam al-khuloud. Un jahannam éternel, depuis que l'ange reprend l'âme, depuis que le corps est posé dans la tombe, depuis le moment où il sera ressuscité avec les koufars, passé sur le surat, recevoir son livret de compte, etc. C'est le jahannam depuis le moment où il quitte ce dunya. Tandis que pour le mu'min, qui a cru en Allah, qui a fait ses salats, qui a donné les droits aux gens, à ses parents, à son épouse, aux voisins, aux musulmans, aux non-musulmans, qui a obéi aux ordres d'Allah, qui est resté dans les limites de la charia, même si dans ce monde c'est un sijn, c'est une prison, il y a des contraintes. On ne peut pas consommer telle chose, c'est haram. Je ne peux pas emprunter à la banque pour construire ma maison parce que c'est haram. Je ne peux pas m'habiller comme ça, ma femme ne peut pas s'habiller comme ça parce que c'est haram. Qui a vendu haram tout ça? Allah Azza wa Jal. Et si Allah a vendu telle chose haram, illicite, c'est parce qu'Allah a décrété que ce monde n'est pas fait pour vous, ô mu'min. Ce monde n'est pas fait pour un musulman. Mayambari, il ne sied pas à un musulman d'avoir tout dans ce monde et d'espérer tout avoir également dans le-delà. On a tous compris que ce monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Mais à l'axe, nous voulons le contraire. Nous voulons tout avoir de ce monde, vivre comme ceux qui n'ont pas iman, avoir l'honneur, la izzat, tout est bien fait, mais on veut en même temps que le jour de Qiyama, on a l'honneur, la richesse, l'izzah et la reconnaissance. Non, c'est pas possible, mes chers frères, en islam. Ça me rappelle une règle de base lorsqu'Allah Azza wa Jal dit que, ce sens, je n'accorde pas deux choses à un serviteur. Dans le monde et dans le-delà, je veux dire. Je n'accorde pas deux choses à un serviteur dans ce monde et dans le-delà. La peur ou la tranquillité. Il dit que si mon serviteur a peur de moi dans ce dunya, promesse d'Allah que le jour de Qiyama, ce serviteur sera tranquille. Celui qui a la crainte d'Allah dans ce monde, qui vit en fonction des ordres d'Allah, qui reste dans les limites fixées par Allah, qui fait en sorte que sa femme s'habille correctement en fonction des ordres d'Allah, que ses enfants grandissent selon l'éducation qu'Allah nous a demandé de donner à nos enfants, que dans mon rizq, dans ce que je consomme, il n'y a que du licite, dans ce que je regarde, il n'y a que du licite, dans ma vie, il n'y a que du licite. Celui qui a vécu comme ça, avec la crainte d'Allah et l'espoir, le jour de Qiyamah, cet homme-là a la promesse d'Allah qu'il n'aura pas l'ombre d'une crainte le jour de Qiyamah. Parce que de ce dunya, j'ai vécu toute ma vie en pensant à Allah. Tandis que le kafir, celui qui n'a pas iman, pour lui, ça fait son jannah. Il vit comme il veut. Il mange ce qu'il veut. Il pourra avoir des maîtresses ou des amants ou ce, il fera ce qu'il veut. Parce que ça, c'est son jannah. Mais dans l'au-delà, celui qui n'a pas eu la crainte d'Allah dans ce monde, promesse d'Allah qu'il sera angoissé, qu'il aura des raisons de se faire du souci dans l'au-delà. Mes chers frères, cette petite histoire nous fait bien comprendre quelle est la relation entre dunya et la relation entre dunya et le akhirah. Quelle est la position du kafir dans ce monde et qu'est-ce qui lui est réservé là-haut. Et quelle est la position du musulman, même si c'est difficile, même si on se moque de nous, même si on est agressé verbalement, physiquement, par des décrets, on ne finit pas de décrier nos enseignements, on ne finit pas de parler de l'islam avec des termes qui nous chagrinent. Mais de toute façon, mes chers frères, notre prophète, alayhi salatu wassalam, a vécu des situations plus difficiles. Les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ont vécu des situations plus difficiles. Les femmes des sahaba, ridwanullahi alayhim, ont vécu des situations difficiles avec Soumaya, radiallahu anha, avec d'autres femmes de sahaba qui étaient écartelées, qui étaient poignardées, qui étaient exécutées parce qu'ils disent la ilaha illallah. Mais tous ces sacrifices au niveau des sahaba, et puis à notre niveau qui est minime, mais incha'Allah, ces sacrifices valent. Ces difficultés à rester dans son dîn ne restent pas vains. Ce ne sont pas des efforts gratuits. Quelqu'un qui vous insulte parce que vous êtes musulman, quelqu'un qui se moque de votre dîn et que ça vous touche intérieurement, mais que vous restez ferme dans votre dîn, vous pensez que les anges ne l'ont pas écrit? Vous pensez qu'Allah n'a pas apprécié votre sabre ala ta'a, votre sabre ala ma'asiya, résister dans la foi, résister pour ne pas rentrer dans le haram, pour faire plaisir aux gens. Je vais faire le haram pour être intégré. Je vais faire le haram pour être comme tout le monde. Je vais me raser de très près pour qu'on ne dise pas que je suis un intégriste ou un terroriste ou un je ne sais pas quoi. Je vais faire en sorte que ma femme, elle aura les cheveux au vent, etc., etc., pour paraître. Oui, vous paraîtrez comme ça aux yeux de ces gens, mais aux yeux de notre âme, aux yeux de notre Seigneur, est-ce que là-haut, ce sont ces gens-là qui viennent vous tirer de le mahshar, ou c'est An-Nabi alayhi salatu wassalam, si l'âme, l'autorisation de la part d'Allah, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni, c'est lui qui vient vous tirer, en fonction des critères de iman qu'il y a, en fonction de la reconnaissance de iman qu'il y aura sur le visage du musulman, visage illuminé, brillant par le athar al-wudu et athar al-salah. Mes chers frères, ne nous trompons pas d'objectif, ne nous laissons pas induire en erreur par les plaisirs de ce dunya. Ne nous laissons pas induire en erreur par les discours de ce dunya, par ceux qui vivent pour ce monde, qui ont été créés pour vivre dans ce monde, et qui n'ont rien d'autre comme objectif que prospérer et mourir le ventre plein. Nous, notre objectif c'est quoi? C'est la rencontre finale avec Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي بَاسْ. Si on a intégré ça, on a tout compris. Allah nous a créés pour faire son adoration. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adorez Allah jusqu'à ce que vous vienne la mort. C'est-à-dire que depuis le moment où je suis balir, jusqu'à ce que je quitte ce dunya, j'ai des anges qui inscrivent chaque bonne action, chaque parole prononcée, chaque pas que je fais, dans quel objectif je fais ce pas. Tout comme il y a des anges qui inscrivent chaque péché, chaque mauvaise parole, chaque intention d'aller vers un endroit qui est haram. Et toutes ces actions inscrites par les anges, bonnes comme mauvaises, restent dans le livret de compte si Allah ne le pardonne pas, ils sont présentés à chaque personne le jour de Qiyam. Alors à nous de bien comprendre, est-ce que nous voulons une vie d'honneur, d'héritat, de richesse? Est-ce que le dîme c'est ça? Est-ce que quelqu'un parmi vous est prêt à prendre l'honneur de celui qui n'a pas iman de ce dunya, mais à condition de prendre sa situation dans le delà. Un verset du Coran, si je le retrouve, il sera dit à ces gens-là qui ont tout eu dans le dunya, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, vous avez dissipé vos biens excellents, wastamta'tum biha, et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre, falyoum, et aujourd'hui, tujzawna 'adhab al-hun, nous vous rétribuons donc aujourd'hui du châtiment avilissant. Qui est prêt à prendre ce deal? Qui est prêt à dire que je prends l'honneur des non-mu'mines dans ce monde, mais en échange, je prends la situation de l'homme? Et j'espère qu'Allah nous donne tawfiq, moi-même en premier, de comprendre des paroles simples, des paroles accessibles à tout le monde, qui viennent de notre prophète alayhi salatu wassalam. C'est des jawami al-kalim, des paroles remplies de sagesse. Il suffit de mettre 7 phrases en pratique. Et il n'y a plus besoin de 2 heures et demie de discours, il n'y a plus besoin de kitab, de grands, de milliers de hadiths. Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Oh Omar, est-ce que tu ne préfères pas qu'Allah leur accorde ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment dans ce monde, et Allah ne les donne pas maintenant, et qu'Allah nous les garde pour l'au-delà, qu'Allah nous accepte, nous donne la compréhension de ces paroles, nous donne la possibilité de faire le discernement entre le dunya et l'au-delà, qu'Allah nous protège de ces discours envahissants qui ont comme objectif de dégoûter le musulman du dîn. Et si l'objectif n'est pas atteint maintenant, l'objectif risque d'être atteint dans les générations qui vont venir. De tels discours, un tel lavage de cerveau à travers les médias, à travers Internet, à travers tous les moyens de communication possibles qui ont pour objectif de faire entrer dans le cœur des enfants musulmans que si je garde mon identité de musulman quand je grandis, je ne réussirai jamais. Je n'aurai pas d'intégration, je n'aurai pas de reconnaissance de la part des gens. Si moi j'ai été à la madrasa, si moi j'ai été éduqué dans les bases de l'islam, je vais mettre de côté ce discours. Qui me dit que mon fils, que ma fille qui a 8 ans, qui est sur MSN jusqu'à minuit, qui est sur Facebook jusqu'à minuit, qui est sur Twitter jusqu'à minuit, elle entend ces discours, elle le ressent à travers le regard des gens, elle le ressent à travers la manière que les professeurs s'adressent à elle, ou que le regard de la société d'une manière générale, qui me dit que depuis l'âge de 8 ans jusqu'à ce qu'elle âge, qu'elle soit âgée de 30 ans, qui me dit qu'un jour ce discours-là ne finira pas par toucher son cœur et atteindre son objectif? Donc de notre côté, restons fermes dans notre dîn. Comprenons la relation subtile mais claire qu'il y a entre ce monde et de l'au-delà, et demandons à Allah Azza wa Jal ihdina as-sirat al-mustaqim, de nous guider vers le droit chemin, yani al-istiqama, de nous garder sur le droit chemin, que lorsqu'on quitte ce dunya, on quitte avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et que la réalité de ce kalima rentre dans mon cœur jour après jour, que mon iman augmente jour après jour, comme les ulama disent, fa man lam yataqaddam faqad ta'akhkhara, en commentaire du hadith, liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar, dans le din, soit tu avances, soit tu recules. Et en commentaire, les ulama disent que celui qui n'avance pas, qui fait Dieu sur place, a déjà reculé. Donc demandons à Allah de nous donner plus de compréhension, de din, de ilm, de tawfiq, qu'Allah nous accepte pour mettre ce din en pratique. Comprendre la réalité du dunya, et qu'Allah permette à nos enfants également de comprendre ces mêmes choses, et qu'ils grandissent avec iman, et qu'ils meurent avec iman. Amma tawfiq illa billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.